Bonjour frère, j'espère que vous avez tous passé une nuit la plus observée aussi merveilleuse que la nôtre. Je sais que les responsables de l'offertoire et de l'annonce ont fait des commentaires à ce sujet, mais je m'en voudrais de ne pas le faire. C'était vraiment une soirée spéciale. Nous gardons cette soirée, frère, parce qu'elle est merveilleuse, nous l'attendons avec impatience chaque année. Nous adorons la nourriture. C'est un repas pas comme les autres. Nous aimons la camaraderie, passer du temps avec les frères, réfléchir à ce que signifie cette journée, et partager des histoires avec les autres, ce que signifie cette journée pour nous personnellement et pour l'Égypte ancienne. Mais en fin de compte, nous mangeons ce dîner ensemble parce que Dieu dit que c'est une nuit qui doit être très observée. Nous observons quelque chose que Dieu nous a ordonné de faire. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. À la base, nous observons les jours des pains sans levain parce qu'ils sont ordonnés. Exode, chapitre 12. Tournons-nous vers l'Exode, chapitre 12. Exode, 12, 15. Pendant 7 jours, c'est un commandement, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, c'est-à-dire aujourd'hui, vous éliminerez le levain de vos maisons. Nous l'avons déjà fait avant le premier jour. Car quiconque mangera des pains levés depuis le premier jour jusqu'au 7e jour, cette âme sera retranchée d'Israël. Très sérieux pour Dieu. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, c'est la sainte convocation que nous célébrons actuellement, et le 7e jour, il y aura une sainte convocation, le dernier jour des pains sans levain, pour vous, on n'y fera aucun ouvrage, si ce n'est ce que chacun doit manger, afin que seul soit fait de vous. Nous allons avoir un bon repas entre les services. Vous observerez la fête des pains sans levain car, parce que, en ce jour, j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte, vous observerez ce jour dans vos générations comme une ordonnance perpétuelle. C'est clair. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain, donc, à la fin du 14e jour, jusqu'au 20e jour du mois, au soir. Jusqu'à la fin du dernier grand jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, car quiconque mangera du pain levé sera retranché de l'assemblée d'Israël. Verset 20, vous ne mangerez rien de levé. Il le répète sans cesse, de manière légèrement différente, car il est impératif que nous comprenions ce commandement. Dans toutes vos habitations, vous mangerez des pains sans levain. Tournez une page au chapitre 13 pendant que nous continuons à nous installer ici. Chapitre 13 et verset 3, Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, une dure servitude sous des maîtres de tâches rigoureuses, car c'est par la force de sa main que l'Éternel vous a fait sortir de ce lieu, on ne mangera pas de pain levé. » Nous verrons pourquoi dans un instant. Vous êtes sortis aujourd'hui, au mois d'Abib. Nous gardons le mois d'Abib. Nous savons combien il est crucial pour le plan de Dieu. Lorsque l'Éternel vous fera entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Héviens et des Jébusiens, qu'il a juré à vos pères de vous donner, un pays où coule le lait et le miel, un type du royaume, vous célébrerez ce service en ce mois. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, et le 7e jour sera une fête pour l'Éternel. Ceci n'est qu'à un chapitre de ce que nous venons de lire, mais il fallait le répéter. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours, et l'on ne verra pas chez vous de pain au levain, et l'on ne verra pas de levain chez vous dans tous vos quartiers. Nulle part. Quel que soit le bien dont nous sommes propriétaires, il ne peut y avoir de levain à l'intérieur, au travail, à la maison, etc. Et tu montreras à ton fils en ce jour-là, en disant, « Ceci est fait à cause de ce que l'Éternel m'a fait quand je suis sorti d'Égypte. » C'est un mémorial très spécifique. Et ce sera pour toi un signe sur ta main, Cela implique une action, et un mémorial entre tes yeux. Nous savons que le Saint-Esprit est stocké, ou logé, entre nos yeux, le siège de la volonté. Afin que la loi du Seigneur soit dans ta bouche, car c'est ta main forte que le Seigneur t'a fait sortir d'Égypte. Donc, il faut faire, ces jours-ci ont à voir avec la loi de Dieu, se souvenir de la loi de Dieu pour qu'elle soit dans notre bouche. Tu observeras donc cette ordonnance en son temps, d'année en année. Le Lévitique 23, nous n'y reviendrons pas, dit que nous devons manger du pain sans levain tous les jours. Je me souviens que lorsque j'étais dans un groupe dissident, je n'ai pas reçu beaucoup de conseils sur la façon de garder les jours des pains sans levain, mais on m'a remis un papier blanc qui m'expliquait pourquoi je n'avais pas besoin de manger du pain sans levain pendant chacun des jours des pains sans levain. Nous l'avons lu, 7 jours, vous mangerez du pain sans levain, c'est un commandement. Vous devez manger du pain sans levain, Lévitique 20, 36. Deutéronome 16, nous allons nous y pencher et voir pourquoi il était sans levain alors que nous continuons à mettre cela en place. Verset 3, vous ne mangerez pas de pain levé à l'intérieur, avec la Pâque, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, même le pain d'affliction. Aucun de ces pains dont parlait Monsieur Orwell, mais le pain de l'affliction. Car vous êtes sortis du pays d'Égypte en hâte. Il n'y avait pas de temps pour que ce pain lève, et Dieu voulait qu'Israël se souvienne de son exode rapide, du début de l'exode d'Égypte. Leur exode rapide de, ce que nous savons être, un type de péché. Mangez ce pain sans levain, car il représente la sortie d'Égypte en toute hâte. Afin que vous vous souveniez, tous les jours de votre vie, du jour où vous êtes sortis du pays d'Égypte. Et il n'y aura pas de pain levé chez vous dans toute votre côté pendant 7 jours. Voilà les lettres du commandement concernant la suppression du levain et la consommation de pain sans levain. C'est simple, non? Facile. Il suffit de supprimer le levain et de manger du pain sans levain pendant 7 jours, de réfléchir à ce que vous faites, et au moment où Israël est sorti d'Égypte. Simple. Eh bien, pas tant que cela, car le raisonnement humain entre souvent dans l'équation. Je veux vous parler de deux de mes plus anciens souvenirs des jours des pains sans levain et ensuite vous lire un article en mettant en place un avertissement très spécifique de Jésus-Christ concernant le levain. J'ai mentionné que j'ai fait partie d'un groupe dissident au début, et mes premiers jours des pains sans levain ont eu lieu, je crois, environ 2 mois et demi à 3 mois après le début de ma participation. Je ne savais pas grand-chose de ces jours, j'avais lu un peu dans leur documentation sur les jours saints, j'avais une compréhension de base de ce que signifiaient ces jours, mais le concept de la suppression des levains m'échappait quelque peu. Je suis arrivé au repas partage après le service du matin. Le premier jour des pains sans levain, je regarde autour de moi, et cette collation particulière que j'aimais manger. Ce n'était pas un vrai potluck, mais nous avions des rafraîchissements après les services. Cette collation particulière que j'avais hâte de manger semaine après semaine n'était tout simplement pas à la table. Et je me suis dit, ah, j'attendais avec impatience cette collation particulière, et elle n'est tout simplement pas là aujourd'hui. Je veux dire, chaque sabbat menant à ces jours, je trouvais cela à la table, et j'avais hâte de le manger. Alors je me dis, vous savez quoi, après les services, après le repas de midi ou le déjeuner et le service de l'après-midi, je vais aller à Walmart. Donc je quitte le service. J'avais environ 1h30 de route pour rentrer chez moi, et je m'arrêtais à un Walmart, j'entre et je vais au rayon. Ils sont là. Ah! Juste ce qu'il me manquait. Je le prends, je m'assois dans ma voiture, j'ouvre le couvercle et je commence à manger, et oh, oh là là, c'est délicieux. Et puis je commence à regarder les valeurs nutritionnelles, et puis je commence à regarder les ingrédients, et bien sûr, Il y a une sorte de produit de levure dans ce produit et je pense, oh non, j'ai violé les jours des pains sans levain. Je savais au moins que je ne devais pas manger ce genre de choses, mais le concept de ce qui est levé, de ce qui est sans levain, eh bien, cela m'a complètement échappé. 3 mois de présence sans aucune indication du ministère sur ce que je devais faire. Le lendemain, je me rends chez un diacre qui habite près de chez moi, un homme âgé, pour l'aider à faire quelques travaux dans la maison, et je lui dis, « Monsieur un tel, vous n'allez pas croire ce qui est arrivé. » Je commence à comprendre ses leçons sur les jours des pains sans levain, sur la façon dont ce levain peut être partout, tout comme notre péché. Il a dit, « Que s'est-il passé ?» J'explique l'histoire. Il a dit, « Oh, oh là là, qu'est-ce que tu en as fait ?» J'ai dit, « Oh, je l'ai enfermé dans mon coffre. Comme cela, je ne le mangerai pas pendant les jours des pains sans levain. » Raisonnement humain, frère. Cela n'a aucun sens, mais ce n'est en fait pas différent de ce dont nous allons parler. C'était donc mon premier jour des pains sans levain. Je n'allais pas laisser ce genre de choses se reproduire. J'ai donc avancé jusqu'à ma deuxième saison de vacances de printemps, j'avais quitté ce groupe dissident, et je conseillais de venir à l'église restaurée, mais j'étais seul et j'ai fait un coup de fouet, comme les êtres humains ont l'habitude de faire, j'ai sauté d'un côté du fossé à l'autre. J'ai commencé des semaines à l'avance à nettoyer la maison de mon père. Je veux dire, c'était une quantité totalement déraisonnable de nettoyage, une quantité absurde de nettoyage. De la poussière, tout ce que je pouvais trouver, je démontais les choses jusqu'à ce qu'elles soient détruites. C'était le nettoyage. Cela n'avait pas grand-chose à voir avec le levain. Je ne pouvais pas faire la différence entre une miette et un morceau de poussière, et c'était comme si c'était aussi bon que le levain dans mon esprit. Il fallait que cela parte. Et c'était une entreprise massive, et les jours passaient, et on se rapprochait de plus en plus du coucher du soleil qui commencerait le premier jour des pains sans levain, et je me disais, j'ai encore mon étagère. Vous savez, il pourrait y avoir du levain dans ces pages. Qui sait si je mangeais pendant que je lisais ces livres? Ma guitare, il pourrait y avoir du levain, vous savez, dans les crevasses de la touche. Qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai pris une grande quantité de mes biens, je m'étais concentré sur la cuisine et ailleurs avant cela, et je les ai tous mis en cercle dans le salon. Mon père avait déjà, vous savez, il a été très patient avec moi quand j'ai été appelé pour la première fois, il avait déjà vu, vous savez, mon appel initial et était curieux de beaucoup de choses que je faisais. Mais cela, c'était nouveau. J'ai tout mis en cercle au centre du sol du salon, et j'ai dit, « Papa, je dois faire quelque chose. » Je renie formellement ces objets. Ils t'appartiennent. Ils ne sont plus à moi. Je ne peux pas les avoir parce qu'ils pourraient contenir du levain. Et il a juste dit, « Bien. » Je ne pense pas qu'il avait une quelconque utilité de ces objets, mais il était juste doux et patient avec son fils. Donc quelques jours plus tard, vous savez, j'ai besoin de récupérer ces trucs. Papa, est-ce que je peux récupérer cela? Oui, fiston, tu peux l'avoir. De l'autre côté du fossé. Mais ces deux histoires ne s'écartent pas de la façon dont les Juifs célèbrent les jours des pains sans levain, du moins certaines sectes de Juifs. Avant d'aborder ce commandement très spécifique du Christ concernant le levain, j'aimerais vous lire, de Chavet d'Orgue, un article intitulé « Qu'est-ce que le chametz ?» Le chametz est simplement le mot hébreu pour le levain. La réponse très courte, premier sous-titre. Le chametz, également orthographié « ametz » ou « chometz » est tout produit alimentaire à base de blé, d'orge, de seigle, ta voix nous dépôtre qui est entrée en contact avec de l'eau et qu'on a laissé fermenter et lever. Quand est-ce que c'est interdit? Selon la loi juive, il est interdit de manger du chametz après la quatrième heure à la quille du matin précédant la Pâque. Et cela commence à devenir bizarre. Nous lisons ce que Moïse a dit sur le fait de retirer le levain de la maison, et je ne me souviens pas qu'il ait parlé de la quatrième heure à la chique, mais il est évident que c'est important pour certaines personnes. Il est interdit de tirer un quelconque bénéfice du chametz à la cinquième heure. Il y a donc une transition spéciale entre la quatrième et la cinquième heure. Et tout le chametz doit être brûlé avant la sixième heure. À partir de ce moment et jusqu'après la Pâque, le chametz est totalement interdit. Pourquoi l'interdiction commence-t-elle avant le début de la Pâque? Et ensuite il le justifie. Je vais sauter un paragraphe. Pour éviter que les gens ne transgressent l'interdiction par inadvertance. Vous savez, vous ne voulez pas vous approcher trop près. Il y a toutes sortes de stipulations comme se passer du fil dentaire avant le début parce que vous pourriez avoir du chametz dans vos dents. J'ai lu cela ailleurs. Je veux dire, juste des directives très strictes pour empêcher les gens de transgresser l'interdiction. Pour éviter que les gens ne transgressent l'interdiction par inadvertance, les sages ont décrété que l'interdiction de manger du chametz commence 2 heures avant midi, et que l'interdiction d'en tirer un quelconque bénéfice commence 1 heure avant midi. Se débarrasser du chametz, voici un en-tête, ici. Bien avant le début de Pessa, nous nettoyons nos maisons, nos bureaux et tout autre endroit qui nous appartient pour nous débarrasser du chametz. C'est bien, dans un sens. Je ne sais pas si nous devons commencer bien avant, mais c'est ce qui est dit ici. Bien qu'il soit louable d'être rigoureux pour la Pâque. Je regrette de ne pas l'avoir su. Gardez à l'esprit que la poussière n'est pas du chametz. L'objectif principal du nettoyage et de la recherche de chametz est d'éliminer tout chametz avec lequel on pourrait entrer en contact par inadvertance et manger. Pendant la Pâque. Cette obligation ne s'étend pas aux miettes ou particules non comestibles ou minuscules qui sont souillées ou abîmées. En gros, indiscernables. Il y a des choses sur la façon dont la cuisine doit être cachérisée et si vous utilisez vos ustensiles ou appareils habituels pour la Pâque, ils devront être cachérisés. Quoi que cela veuille dire. Si les finances le permettent, il est préférable, et plus facile, d'acheter un ensemble d'ustensiles pour la Pâque. Je veux dire que ces fourchettes, couteaux et autres, qui se trouvent peut-être dans votre lave-vaisselle, sont entrés en contact avec du levain pendant le reste de l'année, ce qui pourrait compromettre votre capacité à débarrasser votre maison du chametz. Il préconise donc l'achat d'un ensemble séparé d'ustensiles et d'appareils électroménagers à utiliser pendant la Pâque. La recherche? C'est là que, si ce n'était pas déjà bizarre, cela commence vraiment à le devenir. La veille du 14e jour de Nissan, à seulement 24 heures de la célébration du Seder, nous inspectons nos biens, maisons, bureaux et voitures, pour trouver le moindre chametz qui aurait pu être oublié lors du nettoyage. Moïse a oublié d'inclure certaines de ces informations, frères, c'est pourquoi il s'agit de nouvelles informations, afin que vous soyez au courant. La coutume est d'effectuer la recherche à l'aide d'une bougie, d'une plume, d'une cuillère en bois et d'un sac, en papier, pour recueillir tout chametz trouvé. Maintenant, je l'ai fait, je ne l'ai pas fait personnellement cette année. Je ne l'ai pas su à temps. En outre, quelqu'un a placé 10 morceaux de pain dans toute la maison pour qu'ils soient trouvés lors de la recherche. Vous savez, c'est plus vertueux, si vous êtes capable de trouver de grandes quantités de chametz juste avant la fin du commandement. Je veux dire, c'est une super idée, non? Avant de commencer la recherche, nous récitons la bénédiction. J'ai lu cette bénédiction, mais nous n'avons pas le temps de la couvrir. Elle est très détaillée. Aucune interruption ne doit avoir lieu entre la lecture de la bénédiction et le début de la fouille. De plus, pendant la fouille, nous ne discuterons que de ce qui concerne le chametz. Afin de s'assurer que nous nous souvenons d'effectuer la fouille à temps. Je veux dire, ces heures sont très spécifiques, des points de contrôle très spécifiques dans cette recherche que nous avons lue plus tôt. Il est interdit de manger ou même d'apprendre la Torah. Je ne peux même pas étudier la Bible avant cette recherche, c'est tellement important. Jusqu'à ce que la recherche soit terminée. Maintenant, après tout, toutes les recherches ont été faites, on pourrait avoir manqué quelque chose, vous savez. C'est dangereux. Donc vous devez réciter cette bénédiction sur votre maison. Tout le levain ou n'importe quelle levure qui est en ma possession. Je l'ai pratiquement dit moi-même à mon père. C'est moi qui l'ai inventé, mais c'est la prière officielle, au cas où vous en auriez besoin, frère. Que je n'ai ni vu ni enlevé, et dont j'ignore l'existence, seront considérés comme annulés et, autrement, sans propriétaire comme la poussière de la terre. Et alors vous êtes en sécurité. Maintenant, si vous ne voulez pas vous débarrasser de votre levain, si vous voulez contourner les commandements de Moïse concernant l'élimination du levain de votre maison et l'absence de levain dans votre côté, il y a des dispositions. Parce que, après tout, je veux dire, qui veut se débarrasser de leur, vous savez, beignet à la crème Boston. La vente. Les ustensiles utilisés pour le chametz, s'engage que vous êtes réticent à éliminer. Vous savez, je sais que c'est dans la Bible, mais je suis réticent. Peut-être vendu à une personne qui n'est pas juive pour la durée de la Pâque. Pas définitivement vendu. Juste pour la durée. Et nous ne parlons pas de la vendre à quelqu'un qui vit ailleurs. Pensez-y. Le chametz et les ustensiles vendus doivent être mis de côté dans un endroit désigné, par exemple, un placard ou une armoire dans votre maison, qui est loué à l'acheteur non juif jusqu'après Pâques. C'est génial. Vous n'avez pas à vous débarrasser de vos ustensiles préférés. Le lieu de stockage doit être clairement indiqué, afin que personne ne puisse y prendre quoi que ce soit par la force de l'habitude. La vente du chametz à un non-juif n'est pas une vente symbolique, mais une transaction juridiquement contraignante, et doit donc être effectuée par un rabbin compétent. Nous, ministres de Dieu, n'offrons pas de tels services, frère. Je suis désolé de le dire. Mais vous comprenez ce que je dis lorsque je mentionne que le raisonnement humain peut faire obstacle à des commandements apparemment très clairs. Que ce soit moi, un bébé en Christ, ou ces juifs qui ont inventé des traditions d'hommes qui non seulement rendent difficile et pénible l'observation des commandements de Dieu, mais aussi empêchent de se concentrer sur ce qu'il veut réellement, qui contourne complètement ce qu'il veut. Il le violent littéralement et le justifie par des moyens absurdes qui, pour un observateur extérieur, ne peuvent même pas être compris. Je ne pouvais pas croire ce que je lisais. Ils passent totalement à côté de l'essentiel. Ils sont pharisiens, j'étais pharisien dans ma suppression du levain. Cela introduit donc parfaitement un type de levain très spécifique et dangereux contre lequel Christ a mis en garde. Voyons de quoi il s'agit, frère, et comment l'éviter. Tournez-vous vers Marc 8. Maintenant, Christ a gardé les jours des pains sans levain depuis un très jeune âge. Marc, chapitre 8. Marie et Joseph auraient fait en sorte qu'il aille dans son secteur de la maison, et qu'il enlève le pain ou les miettes qui auraient pu y tomber, depuis un très jeune âge. Dès son plus jeune âge, il aurait observé, en tant qu'être divin, la suppression des pains par Israël pendant des millénaires. En fait, c'est lui qui, avec le Père, a conçu le concept même de la suppression des levains. Il sait donc tout ce qu'il y a à savoir sur la suppression des levains. Marc, chapitre 8 et verset 9. Marc, chapitre 8, verset 9. Ce qui avait mangé, lorsque Christ a nourri les foules, était environ 4000, et il les renvoya. Il venait donc de manger du pain, cette masse de personnes, et Christ en a profité pour donner une leçon. Les pharisiens sortirent, et commencèrent à interroger Christ, cherchant un signe et le tentant. Il soupira profondément en son esprit et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Et il les quitta, et remontant dans la barque, il partit pour l'autre rive. Ainsi, les pharisiens voulaient un signe après que Christ ait accompli un miracle impliquant du pain. Et cette discussion, qui avait maintenant lieu avec les disciples, était prête à se produire. Or les disciples avaient oublié de prendre des pains, et ils n'avaient pas dans le navire avec eux plus d'un pain. Donc tous ces hommes sur un bateau et ils avaient faim, et ils n'avaient qu'un seul pain. Et il leur recommanda de dire, « Prenez garde, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Et ils raisonnaient entre eux, disant, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Ils n'ont rien compris. Ainsi, le levain des pharisiens a eu pour conséquence, dans leur esprit, de ne pas avoir de pain sur un bateau. Cela n'a pas vraiment de sens, aussi Christ doit-il clarifier les choses, dans Matthieu 16. Avant d'y aller, cependant, verset 16, et ils raisonnaient entre eux, disant, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Verset 17, et Jésus, le sachant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous, parce que vous n'avez pas de pain ? Ne percevez-vous pas ou ne comprenez-vous pas ? Votre cœur est-il encore endurci ? Est-il encore endurci, que vous ne pouvez pas comprendre ce que je parle d'avoir ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Et ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et ne vous souvenez-vous pas ? Quand j'ai rompu les cinq pains entre les cinq, combien de paniers pleins de fragments avez-vous emportés ? Ils ont répondu 12. Il dit que nous avons l'opportunité, nous avons la capacité d'avoir de la nourriture. Je ne parle pas de nourriture physique. Voyons donc de quoi il parle, dans Matthieu 16. Nous allons rester beaucoup dans les évangiles aujourd'hui parce que nous sommes concentrés sur le commandement du Christ concernant le levain. Matthieu 16 et verset 5. Et quand les disciples furent arrivés de l'autre côté, récit différent, mais il amplifie, ils avaient oublié de prendre du pain. Alors Jésus leur dit, prenez garde et gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et ils raisonnaient entre eux, disant, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Toujours confus. Ce que Jésus, s'en apercevant, leur dit, ô vous qui êtes de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous entre vous, parce que vous n'avez pas apporté de pain? Parce que vous n'avez pas apporté de pain physique. Ne comprenez-vous pas encore, et ne vous souvenez-vous pas des cinq pains des 5000, et du nombre de paniers que vous avez emportés? Ni des sept pains des 4000, ni du nombre de paniers que vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous parle, mais que vous devez vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens? Pas du pain physique, un certain levain spirituel contre lequel il met en garde. Ils comprirent alors comment il leur avait dit de se méfier non pas du levain du pain, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Donc nous construisons un peu, le levain de la doctrine des pharisiens. Je veux dire, si ces doctrines ne sont pas du levain, si elles ne sont pas des fardeaux pénibles, lourds à porter, dans les traditions des hommes, je ne sais pas ce qu'elles sont. Nous sommes toujours en train de construire cela, la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Il devient encore plus spécifique dans Luc 12. Luc 12. Quel est ce levain? Ce levain qui est une sorte de doctrine qui se rapporte aux pharisiens et aux sadducéens. Luc 12, verset 1, sur ces entrefaites, une foule innombrable s'étant réunie, au point de se marcher les uns sur les autres, il se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Voilà, à la base, le levain des pharisiens, l'hypocrisie. Ils font profession d'être pieux, tout comme nous faisons profession d'être pieux, mais ils vivent contrairement à la voie de Dieu. L'hypocrisie se dit hypocrisie, agir sous une apparence feinte, c'est-à-dire la tromperie, l'hypocrisie. Méfiez-vous de ces acteurs, dit Christ, et méfiez-vous de devenir vous-même un acteur. Méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Vous ne voulez pas être un acteur, disait-il aux disciples. Eh bien, nous courons ce risque, nous aussi. Nous professons croire en Dieu, nous professons vivre à sa manière, mais nos actions sont-elles en accord avec cette profession de foi? Verset 2, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de dissimulé qui ne doive être connu. Ils peuvent avoir une belle apparence extérieure, mais ils seront exposés. Tout comme si n'importe lequel d'entre nous a une belle apparence extérieure, et que nous péchons habituellement et que nous ne voulons pas nous repentir, nous ne voulons pas grandir, nous serons exposés. Il n'y a rien de couvert qui ne doive être révélé, ni de caché qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous avez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous avez dit à l'oreille dans les placards sera proclamé sur les toits. Christ nous mettait en garde. N'écoutez pas ces imposteurs et ne devenez pas un imposteur. Mettez en pratique ce que vous prêchez, pour ainsi dire. Pensez à un acteur, pensez à la profession d'acteur. Il y a des hommes et des femmes qui jouent de grands rôles, des personnes de grand caractère. Des personnes à la volonté de faire qui font ce qu'il faut, mais regardez leur vie. Ce sont souvent les vies les plus déglinguées, les plus dégénérées que l'on puisse étudier, remplies de drogue, de coucherie, de tout ce que vous voulez, cela se passe à Hollywood. Pourtant, ils font le portrait de ces grands hommes et femmes. Je ne suis pas un acteur qui les attaque spécifiquement, mais je veux juste illustrer mon propos. Les pharisiens étaient des acteurs. Ils avaient l'air si bien, mais pas tellement à l'intérieur. Ainsi, pour le reste de ce message, frères, parlons des éléments du levain des pharisiens que nous ne devons jamais laisser s'infiltrer. Nous devons être beaux à l'extérieur et à l'intérieur. Donc le premier point ici, nous sommes en danger du levain de l'hypocrisie, si nous ne nous préoccupons que de l'extérieur et pas de l'intérieur. Nous risquons le levain de l'hypocrisie si nous ne nous préoccupons que de l'extérieur et non de l'intérieur. Retournez à Luc 11, verset 37. Et il, le Christ, parla, excusez-moi, et comme il parlait, un certain pharisien le pria de dîner avec lui, il entra, et se mit à table. Christ a été invité à dîner dans la maison d'un pharisien. Et quand le pharisien le vit, il s'étonna qu'il ne se soit pas d'abord lavé avant le dîner. Il y avait beaucoup de lavages rituels qui faisaient partie du code pharisien. Et le Seigneur lui dit, « Maintenant, vous les pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais votre intérieur est plein de rapines et de méchanceté. Vous avez l'air bien à l'extérieur, mais spirituellement vous êtes un gâchis, lui a-t-il dit. Insensé, celui qui a fait ce qui est dehors n'a-t-il pas fait aussi ce qui est dedans ? Dieu vous a fait de l'intérieur vers l'extérieur, lui dit-il. Il veut que vous soyez beau à l'extérieur, oui, mais vous devez être beau à l'intérieur aussi, lui dit-il. Je sais que nous avons tendance à dire, je ne suis pas un pharisien. Eh bien, aucun de nous n'est pharisien, mais reconnaissez que Christ a utilisé ses interactions avec les pharisiens pour nous enseigner des leçons très importantes. Et si attaquer leur conduite n'était pas important, Pourquoi forment-ils une si grande partie des Écritures? La raison en est qu'elles contiennent des leçons pour nous, en tant que chrétiens. Pour l'instant, nous examinons la leçon relative à l'hypocrisie. Le levain de l'hypocrisie. Verset 42, « Même malheur à vous, scribes et pharisiens. Excusez-moi, c'est tout pour Luc 11. Ils peuvent nettoyer l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur est rempli de corruption et de méchanceté. Au début de cette année, j'ai décidé de faire du thé. Et je ne le fais pas souvent, je suis plutôt un buveur de café, mais j'ai une très belle théière, une théière en fonte, et j'ai fait ce thé et il avait un goût terrible. Et d'habitude, cette théière est juste décorative. Alors, j'ai dit, je ne veux pas boire ce thé. C'est horrible. Alors je l'ai laissé là et j'ai oublié que j'avais fait du thé dans cette théière décorative. Eh bien, environ 3 mois plus tard, j'ai ouvert le couvercle de cette théière et elle était, disons-le, remplie de corruption et de méchanceté. Elle est belle à l'extérieur, mais elle est sale à l'intérieur. Christ met en garde contre le levain de l'hypocrisie. Nous devons dire, nous professons croire en Dieu, nous professons vivre à sa manière, nous devons réellement le soutenir et le faire. Matthieu 23. Matthieu 23 et le verset 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'anis et du thiomine, et que vous avez omis les choses les plus graves de la loi, le jugement, la miséricorde et la foi, vous auriez dû faire ces choses-là, et ne pas laisser les autres en suspens. Guides aveugles, vous poussez un moucheron et vous avalez un chameau. Cela ressemble beaucoup au délestage par-dessus bord dont nous avons parlé plus tôt, qui consiste à s'attaquer aux moucherons. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Hypocrites. Car vous rendez pur le dehors de la coupe et le plat, mais au-dedans ils sont pleins d'extorsion et d'excès. Encore du levain spirituel à l'intérieur. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord ce qui est au-dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors en soit aussi pur. Nettoyez-vous de l'intérieur vers l'extérieur, disait Christ. Débarrassez-vous du levain spirituel qui est en vous. Ne vous concentrez pas tant sur le physique, leur disait-il. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous êtes semblables à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort, de tout et de toute pureté. De même, vous aussi, au dehors, vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais, au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. L'intérieur doit correspondre à l'extérieur, Dieu dit, dans Samuel, nous ne tournerons pas là, il regarde. L'homme regarde l'apparence extérieure, mais Dieu regarde le cœur. Il se préoccupe de ce qui est à l'intérieur, 1 Samuel 16 verset 7. Une autre leçon ici, nous risquons le levain de l'hypocrisie si nous avons confiance en nous-mêmes. Nous risquons le levain de l'hypocrisie si nous avons confiance en nous-mêmes. Nous avons simplement gardé la Pâque. Nous avons reconnu nos imperfections et le besoin d'un sauveur. Nous n'avons pas eu confiance en nous-mêmes pour nettoyer nos vies, nous avons fait des efforts, mais nous savons finalement que nous avons besoin d'un sauveur. Au fond, nous ne pouvons pas avoir confiance en nous-mêmes. Luc 18. Luc, chapitre 18. Nous risquons le levain de l'hypocrisie si nous avons confiance en nous-mêmes. Luc 18, verset 9, il dit cette parabole à certains qui se croyaient justes, et méprisaient les autres. J'ai pensé, je me débrouille bien tout seul. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre publicain. On pourrait tout aussi bien dire l'un un hypocrite, et l'autre un publicain. Le pharisien se tenait debout et priait ainsi en lui-même, « Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, extorqueurs, injustes, adultère, ni même comme ce publicain. J'ai ma vie en ordre. Pas de souci ici. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. Je suis essentiellement propriétaire de mon salut. Et le publicain, qui se tenait à distance, ne levait pas même les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » C'est l'attitude que nous avions en entrant dans la Pâque, j'ai ces problèmes, j'y travaille, je les ai identifiés, mais il faut que tu sois miséricordieux envers moi. Je ne peux pas être pardonné si Christ n'a pas fait ce qu'il a fait pour nous, je vous le dis, cet homme est descendu dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous devrions ressembler davantage à l'homme qui se frappe la poitrine, qui n'a pas confiance en lui-même, qui regarde vers Dieu pour obtenir de l'aide et de la miséricorde. L'apôtre Paul a dit que je peux par moi-même, ou pardon, a dit, je peux tout faire par Christ, qui me fortifie. Par Christ, qui me fortifie. Ce n'est pas une confiance en soi. Christ a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Jésus-Christ. C'est Philippiens 4, 13, et Jean 5, 30, si vous vouliez les écrire. Je puis tout par Christ, qui me fortifie, dit Paul. Et Christ a dit, je ne peux rien faire par moi-même. Ce ne sont pas des individus qui ont confiance en eux-mêmes, ce sont des titans spirituels. Nous risquons le levain de l'hypocrisie, si nous, ceci est lié au point que nous venons de couvrir, avons des opinions élevées de nous-mêmes. Nous sommes dans cette époque où l'on nous dépeint comme étant plat, où l'on nous dépeint comme étant sans levain, et non pas gonflé comme du pain levé. Nous risquons d'attraper le levain de l'hypocrisie si nous avons une haute opinion de nous-mêmes. Matthieu 9. Matthieu, chapitre 9 et verset 9, comme Jésus s'en allait de là, il vit un homme, nommé Matthieu, assis à la réception de la coutume, et il dit « Suis-moi ». Et il se leva, et le suivit. Et il arriva que, comme Jésus était à table dans la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs descendirent et s'assirent avec lui et ses disciples. C'est commun, les gars. Les pharisiens, voyant cela, dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? Nous sommes au-dessus de cela. Sûrement, il l'est aussi. Qu'est-ce qui se passe ici ? Mais Jésus, entendant cela, leur dit, « Ceux qui sont sains n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. » En d'autres termes, vous, les pharisiens, je sais que vous avez tout compris et que vous n'avez pas besoin de Dieu, mais ces pauvres gens malades, si. Mais allez apprendre ce que cela signifie, je ferai miséricorde et non sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, les bien-pensants, ceux qui ont une haute opinion d'eux-mêmes, et ont confiance en eux, mais les pécheurs à la repentance. Nous reconnaissons que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous n'avons pas une haute opinion de nous-mêmes, car nous savons que nous n'existerons pas à long terme si nous le faisons. Nous devons nous en remettre à Dieu. Philippiens 23 dit que nous devrions estimer les autres meilleurs que nous-mêmes. C'est le contraire du levain de l'hypocrisie qui élève le moi. C'était plus court. Nous sommes en danger du levain de l'hypocrisie si nous nous concentrons sur les fautes des autres. Jean, chapitre 8. Si nous nous concentrons sur les fautes des autres, nous risquons d'être victimes du levain de l'hypocrisie. Jean, chapitre 8 et verset 1, Jésus se rendit sur le mont des Oliviers. De bon matin, il revint dans le temple, et tout le peuple vint à lui, il s'assit et les enseigna. Verset 3, les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme prise en flagrant délit d'adultère, prise sur le fait, fière d'eux-mêmes, j'en suis sûr, et l'ayant placée au milieu, ils lui dirent, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Qu'allez-vous faire à ce sujet? Tu te prétends sage et juge. Que devons-nous faire? Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider une telle femme, mais qu'en dites-vous? Allez-vous contredire la loi de Dieu dans cette situation? Il disait cela pour le tenter, afin d'avoir à l'accuser. Il se concentre sur les fautes des autres et utilise leur concentration sur les fautes des autres pour prendre Jésus au piège. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec son doigt sur la terre, comme s'il ne les avait pas entendus. Comme il continuait à l'interroger, il se leva lui-même et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Et nous avons émis l'hypothèse qu'il écrivait en fait leur péché sur le sol, montrant ainsi que toi aussi, tu as manqué. Devrions-nous vous lapider? Celui d'entre vous qui est sans péché, qui lui jette d'abord la pierre. Et de nouveau il se baissa, et écrivit sur la terre. Ceux qui l'entendirent, convaincus par leur propre conscience, sortirent les uns après les autres, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul, la femme étant debout au milieu. Il se concentrait sur les péchés des autres, alors qu'ils avaient eux-mêmes des péchés à régler. Ils étaient occupés à montrer du doigt alors que le doigt aurait dû pointer dans l'autre sens. Jésus, s'étant levé, ne vit que la femme, et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? N'y a-t-il personne qui t'ait condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va, et ne pêche plus. » Christ dit de se concentrer sur ses propres problèmes et de les changer. Ne vous concentrez pas sur les fautes des autres. Nous venons de nous examiner nous-mêmes, pour savoir si nous sommes dans la foi. C'est une chose personnelle. Ce n'est pas à nous de chercher les péchés des autres. S'ils sont manifestes, c'est une autre chose. Ce n'est pas notre but ici. Nous risquons le levain de l'hypocrisie si nous ne nous préoccupons pas profondément des gens. Nous devrions être les personnes les plus attentionnées sur terre. Nous allons examiner un exemple extrême ici dans Matthieu, chapitre 12. Nous nous soucions profondément des gens, c'est pourquoi nous voulons le royaume. Nous regardons autour de nous et ce monde nous afflige et nous épuise, pas seulement à cause du péché, mais à cause de la vie misérable que mènent tant de gens. Nous voulons ce que nous avons pour eux dans un sens beaucoup plus large et dans un contexte beaucoup plus grand. Nous voulons qu'ils aient la santé, nous voulons qu'ils aient la compréhension que nous avons, et nous voulons finalement qu'ils aient la vie éternelle. Matthieu, chapitre 12. Christ traverse les champs de maïs, ses disciples mangent le jour du sabbat, et il est accusé par les pharisiens, mais ensuite, au verset 10, tout s'accélère. Et voici qu'il y avait un homme dont la main était desséchée. Donc, un homme infirme. Et ils l'interrogèrent, disant, « Est-il permis de guérir les jours de sabbat ?» C'est ce que les pharisiens lui ont demandé. Ce pauvre homme, je ne sais pas si c'est de naissance ou pas, mais imaginez que vous ne puissiez pas vous servir de votre main. Je ne peux pas l'imaginer. Ce serait terrible, juste dans cette vie. Imaginez cela, frère. Et les pharisiens voulaient utiliser la détresse de cet homme pour piéger Christ. Et il leur dit, « Quel est parmi vous l'homme qui aura une brebis et qui, si elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour la retirer ? Combien donc l'homme vaut-il mieux qu'une brebis ? C'est pourquoi il est permis de faire du bien les jours de sabbat. Vous êtes prêt à tirer un animal d'un fossé ? Mais vous allez m'accuser d'enfreindre la loi pour avoir guéri un homme infirme? Pour avoir rendu sa vie merveilleuse au-delà de toute imagination? Il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit, et elle fut guérie. Les pharisiens sortirent, et tinrent conseil contre lui, afin de le faire périr. Ils ne se souciaient pas des gens. Si nous ne nous soucions pas des gens, C'est un exemple très extrême, nous sommes hypocrites d'une certaine manière. Ils ont cherché à détruire Christ parce qu'il a donné à un homme l'usage de sa main, le jour du sabbat. Dans le récit parallèle, excusez-moi, nous sommes en danger du levain de l'hypocrisie si nous avons le cœur dur. Similaire. Si nous sommes durs de cœur. Marc, chapitre 10. Nous ne pouvons avoir aucun de ces traits. Ce sont différentes sortes de levain, mais elles sont toutes résumées sous le levain de l'hypocrisie, parce que nous professons vivre à la manière de Dieu, et si nous vivons à l'opposé, il nous appelle hypocrites, durs de cœur. Marc, chapitre 10. Nous ne pouvons pas avoir le cœur dur. Il se leva de là, et vint sur les côtes de la Judée, de l'autre côté du Jourdain, et le peuple revint à lui, et, selon sa coutume, il les enseigna de nouveau. Les pharisiens s'approchèrent de lui et lui demandèrent, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme ? » Tant-il. Il prit la parole et leur dit, « Que vous a ordonné Moïse ?» Ils répondirent, « Moïse a souffert d'écrire un acte de divorce, et de répudier sa femme. » Et Jésus leur répondit que c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il a écrit ce précepte. Il s'agit, en grec, de eschaelrokardia, dureté de cœur, dénué de perception spirituelle. Il t'a écrit ce précepte. Mais dès le commencement de la création, Dieu les a fait mâle et femelle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront tous deux une seule chair. Verset 9, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Dans la maison, ses disciples l'interrogèrent de nouveau sur la même question. Il leur dit, si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il commet un adultère envers elle. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Un cœur dur. Prêt à rejeter une femme sur le côté, à ruiner sa réputation et sa vie, mais c'est ce qui était prévu dans les lois civiles d'Israël à cause de la dureté du cœur des pharisiens. Nous ne pouvons pas être de cette façon. Tournons-nous vers la première partie de Timothée. C'est ainsi que nos cœurs doivent être. 1 Timothée 1 et verset 5. Or, la fin du commandement, c'est la charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. L'amour venant d'un cœur pur, le contraire, la forme sans levain de la dureté de cœur. Nous risquons le levain de l'hypocrisie si nous ne recevons pas de correction. Luc, chapitre 11 encore. Luc 11. Nous sommes en danger avec le levain de l'hypocrisie si nous ne recevons pas de correction. 11, 37. Nous allons revenir en boucle dans les Écritures, et construire quelque chose d'autre. Comme il parlait, un pharisien le pria de dîner avec lui, il entra, et se mit à table. C'est ici qu'il l'a corrigé plus tôt. Et le pharisien, voyant cela, s'étonna de ce qu'il ne s'était pas lavé avant de dîner. Et le Seigneur lui dit, « Maintenant, vous les pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais votre dedans est plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait ce qui est dehors n'a-t-il pas fait aussi ce qui est dedans? Faites plutôt l'aumône de ce que vous avez, et voici que tout est pur pour vous. Vivez votre vie correctement et tout sera pur pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens! Car vous donnez la dîme de la menthe et de la rue, et toutes sortes d'herbes, et passe le jugement et l'amour de Dieu, voilà ce que vous auriez dû faire, sans laisser l'autre en suspens. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous aimez les sièges les plus élevés dans les synagogues, et les salutations dans les marchés. Ce sont des réprimandes sévères, correction après correction, waouh, waouh, waouh. Et voyons comment ils reçoivent cette correction. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous êtes comme des fosses qui ne paraissent pas, et dont les hommes qui marchent dessus ne se rendent pas compte. comme des fosses qui piègent et tuent les gens. Alors, l'un des avocats, proche collaborateur des pharisiens, prit la parole et lui dit, « Maître, en disant cela, et en disant cela, tu nous fais aussi des reproches. » Un homme perspicace. Et il dit, « Malheur à vous aussi, avocat. Je ne sais pas si cet homme cherchait à se faire battre, ou s'il admettait ses fautes, mais... car vous chargez des hommes de fardeaux pénibles à porter, et vous-même ne touchez pas ces fardeaux d'un seul de vos doigts. Que la suppression du levain ressemble à un fardeau, à une peine pour être portée à moi. Je ne possède même pas une plume. Malheur à vous, car vous bâtissez les sépulcres des prophètes, et vos pères les ont tués. En vérité, vous rendez témoignage que vous permettez les actes de vos pères, car ils les ont effectivement tués, et vous bâtissez leurs sépulcres. Correction, encore et encore. C'est pourquoi, dit la sagesse de Dieu, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils tueront et persécuteront certains d'entre eux, afin que le sang de tous les prophètes, qui a été versé depuis la fondation du monde, soit exigé de cette génération, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le temple, en vérité, je vous le dis, il sera exigé de cette génération. Était-il contrit? Malheur à vous, avocat, car vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous n'êtes pas entré vous-même, et vous avez entravé ceux qui entraient. Empêchez les gens d'entrer dans le royaume en retenant la connaissance et en la pervertissant. Et comme il leur disait ces choses, les scribes et les pharisiens. Et comme il leur disait ces choses, qu'ont fait les scribes et les pharisiens? Ils n'ont pas dit, « Oh là là, nous devons changer. Nous devons nous repentir. » Non. Ils n'étaient absolument pas disposés à recevoir une correction. Les scribes et les pharisiens se mirent à le presser avec véhémence, et à l'inciter à dire beaucoup de choses, « Continuez à parler. Continue de parler. » Pourquoi? Parce qu'ils voulaient l'attendre, cherchant à tirer quelque chose de sa bouche, afin de pouvoir l'accuser. Totalement inconscients de la nécessité de se changer eux-mêmes. Au lieu de cela, ils voulaient juste saisir l'occasion de surprendre l'homme dans ses paroles, qui essayait de les aider, qui essayait de leur dire de se repentir, et comment changer. C'est étonnant. Nous risquons le levain de l'hypocrisie si nous ne voulons pas recevoir la correction. Maintenant, c'est à une autre échelle, bien sûr, mais nous comprenons l'application. Proverbe 3 dit. Nous pouvons se tourner là-bas, vers les Proverbes, chapitre 3. Nous savons que Dieu nous corrige pour une très bonne raison. Proverbe 3 et verset 12. En fait, nous allons commencer au verset 11. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ils ont méprisé le châtiment de Dieu, ne te lasse pas de sa correction, ils ne voulaient rien entendre, car celui que le Seigneur aime, il le corrige, comme un père le fils dont il se réjouit. Nous avons reçu la correction parce que nous savons que c'est Dieu qui tente de nous remettre sur le droit chemin, parce qu'il nous veut dans sa famille pour toujours. Nous risquons le levain de l'hypocrisie, si nous ne voyons pas la main claire de Dieu. Nous sommes menacés par le levain de l'hypocrisie si nous ne voyons pas la main claire de Dieu. Matthieu, chapitre 12. Certains de ces passages se chevauchent. Matthieu, chapitre 12, verset 22, « Alors on amena à Christ, un possédé, A, d'un démon, B, aveugle, et C, muet. » C'était une personne dans un état déplorable. Je ne sais pas si j'ai lu un autre cas où quelqu'un était possédé, aveugle et muet, et il l'a guéri. Et il le guérit, au point que l'aveugle et le muet parlaient et voyaient. Le peuple était dans l'étonnement et disait, « N'est-ce pas là le fils de David ?» Les gens du peuple ont reconnu ce qu'ils ont vu. Mais quand les pharisiens l'entendirent, ils dirent, « Ce n'est pas lui qui chasse les démons, mais par la Bible, Belzébul, le prince des démons. » Quelle conclusion à tirer? Quelqu'un parle, entend et fait chasser un démon de lui, et il l'attribue à Satan. Et Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister, et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, par Belzébul, je chasse les démons, par qui vos enfants les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu à vous. Vous devez reconnaître cela, disait-il. Sinon, comment peut-on entrer dans la maison d'un homme fort, et piller comme des biens, si l'on ne lie d'abord l'homme fort? Et alors on pille la maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. C'est pourquoi je vous dis que toute espèce de péché et de blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Ou bien faites que l'arbre soit bon, et que son fruit soit bon, ou bien faites que l'arbre soit corrompu, et que son fruit soit corrompu, car on connaît l'arbre à son fruit. Maintenant, ils viennent de voir quelque chose d'extraordinaire, mais écoutez la question qu'ils posent. Nous sommes en train de la construire. Ô génération de vipères, comment pouvez-vous, étant mauvais, dire de bonnes choses? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un homme bon, du bon trésor de son cœur, produit de bonnes choses, et un homme mauvais, du mauvais trésor, produit de mauvaises choses. Mais moi, je vous dis que toute parole oiseuse que les hommes prononceront, ils en rendront compte au jour du jugement. Car c'est par vos paroles que vous serez justifiés, et c'est par vos paroles que vous serez condamnés. Puis, dans ce contexte de chasser simplement un démon, de guérir l'ouïe de quelqu'un et de guérir la vue de quelqu'un, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » « Quoi ? Regardez ce dont il vient d'être témoin. Nous voudrions voir un signe de vous. » Le levain des pharisiens empêche quelqu'un de voir la main claire de Dieu. Nous voyons les empreintes digitales de Dieu partout dans cette œuvre, mais il y a parfois des gens qui sont confus, qui ne peuvent pas voir la vue d'ensemble, et qui ne peuvent pas voir la main claire de Dieu. Maintenant, frères, il ne s'agit pas d'attaquer les pharisiens. Ce n'est pas du tout cela. Pensez à l'apôtre Paul. Il a dit, « Je suis le pharisien des pharisiens. » C'est ainsi qu'il a grandi. Son père était un pharisien. Il a grandi avec un zèle sans connaissance. Il a grandi en suivant à la lettre les édits et les doctrines des pharisiens. Il était un titan au sein de leur religion. Il a dit que, touchant la loi, j'étais un pharisien. Il a écrit aux Philippiens, je l'ai observé dans ses moindres détails. Il a dit à Agrippa que non seulement il était pharisien. Il faisait partie de la secte la plus droite, c'est-à-dire exacte, de notre religion. Il a dit qu'après la secte la plus outrageuse, la plus exacte de notre religion, je vivais un pharisien. Mais il a écouté la correction, il a changé. Et, il n'était pas imperméable à ces attitudes pharisiennes dont il devait sortir, tout comme nous ne sommes pas imperméables à ces attitudes pharisiennes. Mais à la base, nous devons vivre la vie que nous professons. Nous ne pouvons pas permettre à ce levain de s'infiltrer. C'est le même Paul, qui a rapporté ceci dans les 1 Corinthiens 5, 8. Nous arrivons à la fin de ce chapitre, et nous allons commencer au verset 6. Votre glorification n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la masse? N'importe lequel de ces éléments du levain de l'hypocrisie peut nous faire dérailler, et peut nous faire dérailler définitivement si on ne s'en occupe pas. Un petit peu de levain se répand pour remplir toute la masse. Un tout petit peu du levain de l'hypocrisie est inacceptable dans nos vies. Elle nous met en grand danger. Purgez donc le vieux levain. Débarrassez-vous du levain physique comme Moïse l'a ordonné, ou comme Dieu l'a ordonné par Moïse, pas comme Chavet d'Orgue l'a ordonné. Purgez le vieux levain, de la manière prescrite par Dieu, afin que vous soyez une pâte nouvelle, comme vous êtes sans levain. Car même Christ, notre Pâque, est immolé pour nous. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, le levain physique, ni avec le levain de la malice et de la méchanceté, le levain spirituel, résumé dans le levain de l'hypocrisie, mais avec le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. Le fait est que, frères, nous comprenons ceci, je ne vous dis rien que nous ne sachions déjà, nous devons vivre à la manière chrétienne. C'est un mode de vie actif. Nous ne pouvons pas simplement professer être chrétien, et désobéir habituellement à Dieu sur n'importe quel point. C'est le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie, c'est la forme mortelle de levain qui nous fera dérailler pour l'éternité. Nous ne pouvons pas être des acteurs. Nous avons la même apparence à l'extérieur qu'à l'intérieur, et la façon dont nous le faisons est de purger le levain du péché, et de le remplacer par le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. Matthieu 5 verset 25, dernier passage de l'Écriture sainte. Matthieu 5, verset 20, car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Christ nous a mis en garde. Dieu veut que nous nous effacions complètement, frères. Méfions-nous du levain des pharisiens.